Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Faut-il nécessairement avoir un accompagnateur spirituel pour être un bon chrétien ? Qu'il soit prêtre, religieux ou laïque, l'accompagnateur spirituel propose une relation fraternelle pour avancer dans la foi et discerner la volonté de Dieu. Le livre de la Genèse nous dévoile le rôle d'Abraham. Connaissant Dieu et ayant foi en lui, il peut à son tour accompagner son fils Isaac en lui certifiant que Dieu pourvoit en toutes choses. À l'image d'Abraham et d'Isaac, nous pourrions en déduire qu'un tel accompagnement de chaque instant serait indispensable pour être un bon chrétien. Mais qu'en est-il réellement ? C'est la question que nous posons aujourd'hui aux deux invités de Vivante Église, Elisabeth Dumont, laïque de l'Ordre des Carmes Deschaux séculiers, avec nous par téléphone. Bonjour madame.
Bonjour.
Et je précise que vous êtes aussi mariée et mère de famille, et grand-mère aussi, il me semble, non, vous m'aviez dit ?
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Oui. À mes côtés, en plateau, frère Henri Carme au couvent de Toulouse. Bonjour frère Henri.
Bonjour.
Merci à tous deux de vous rendre ainsi disponibles pour cette émission sur l'accompagnement spirituel. Alors, on va essayer d'avancer pas à pas pour bien comprendre de quoi il s'agit. Avant de savoir si tout chrétien a besoin d'être accompagné, on va peut-être commencer par définir ce qu'est l'accompagnement spirituel. Quel est son but précis, frère Henri ?
Alors, le but de l'accompagnement spirituel, c'est de chercher les chemins du Seigneur dans ma vie. Quelle est la volonté de Dieu ? Comment la grâce de Dieu agit dans mon cœur ? Voilà, je suis le chrétien par définition. Il est habité par l'Esprit Saint qu'il a reçu au baptême, et cet Esprit Saint le travaille, l'oriente, et il a besoin d'apprendre à lire au dedans de lui ces mouvements de l'esprit. C'est, on dit dans l'Ancien Testament, Dieu a donné une loi inscrite sur des tables de pierre, et dans le Nouveau Testament, bien, la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint dans notre cœur. L'Esprit Saint qui nous meut de l'intérieur vers ce qui est juste et bon. Mmh. Voilà. Donc, par excellence, un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité, ému par l'Esprit Saint. Et je dois apprendre les nouveaux chemins de cette vie.
Mmh. Voilà. Et donc, ça veut dire ne pas subir sa vie, être vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. Et pour cela, parfois, on a besoin d'un accompagnateur, d'une personne extérieure, finalement d'un tiers, évidemment dûment formé, mais ça on le verra, pour éclairer justement et pour aider à discerner ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui.
Oui. Alors si vous voulez, toute la difficulté, c'est que donc chaque personne est vraiment reliée à Dieu. Sainte Thérèse dira, il n'y a que Dieu qui soit plus grand qu'une âme. Donc il y a quelque chose d'inadmissible dans la dignité de la personne humaine, ce que le Concile nous a beaucoup rappelé, hein, c'est le numéro 16 de Gaudium et Spes, je vous le cite, hein. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Donc, au-dedans, la voix de Dieu est la conscience que nul ne peut violer. Hein, on doit toujours suivre sa conscience. Et puis, ce mystère de l'incarnation, ce régime de l'incarnation qui fait que Dieu est venu à nous en son Fils, dans une personne, comme un homme, il est venu à notre rencontre. Et ce mystère se poursuit dans l'Église. C'est-à-dire que le mystère de l'Église, c'est que Dieu se rend présent au milieu de nous. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Et donc on va avoir cette chose, cette complémentarité, si vous voulez, d'une part, une immédiateté de la relation à Dieu, et d'autre part, des médiations qui me permettent de reconnaître cette intimité. L'exemple le plus frappant, le plus connu, hein, c'est les pèlerins d'Emmaüs.
Ah oui.
Hein. Ils marchent ensemble, découragés, et puis un homme les rejoint sur le chemin et leur explique les Écritures, et leur intelligence s'ouvre, leur cœur se réchauffe, et ils reconnaissent le chemin de Dieu. Ils se retournent pour retourner à Jérusalem. Et donc on voit comment, dans cette relation de ces deux personnes découragées, perdues, Jésus se rend présent, s'appuyant sur l'Écriture, et il leur ouvre l'intelligence, il leur montre le chemin du vrai bonheur, qui est ce retour à Jérusalem, qui est de comprendre le mystère de la Passion.
Élisabeth Dumont, pour compléter ce que dit Père Henri, est-ce que pour vous, l'accompagnement spirituel, c'est aussi une façon de passer de sa foi d'enfant à une foi d'adulte éclairée et librement assumée?
Alors, je dirais peut-être pas exactement comme ça. Mmh. C'est-à-dire que moi, dans mon cheminement, justement, j'avais vraiment ce désir d'avoir une foi plus éclairée. J'ai d'abord cherché moi-même dans les livres, j'ai écouté des conférences, etc. Mais il y a un moment où vraiment il y a eu une soif de Dieu beaucoup plus profonde et je me suis rendu compte que toute seule, justement, j'arrivais pas, que j'avais besoin de quelqu'un de plus expérimenté. Vous voyez, c'est pas au départ quand on a envie de progresser. Enfin, pour moi, hein, voilà, ça a été vraiment ce moment que le Seigneur a réveillé en moi d'un désir grand de conversion, et là toute seule j'arrivais pas. J'ai vraiment besoin de faire appel. Voilà.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre spécifiquement et précisément d'un accompagnement spirituel, Père Henri?
Alors je crois que ce que vient de dire Élisabeth est très important, il me semble. Et ça répond un tout petit peu à votre question initiale. Je fais un petit détour par là. Est-il nécessaire d'avoir un accompagnement spirituel pour être un bon chrétien? Mais j'aimerais d'abord répondre non, au sens où je pense qu'on invente des obligations, comme, s'engager dans sa paroisse ou avoir un accompagnateur spirituel, et on oublie les obligations traditionnelles que sont l'obligation dominicale, le fait de se tenir à une prière quotidienne, etc. Donc, l'accompagnement spirituel, ce qu'a expérimenté Élisabeth, c'est qu'il y a un moment de son existence où ça s'est présenté comme une nécessité.
Mais parce que Élisabeth avait mis en place déjà toute cette vie de prière, de fidélité à Dieu.
Alors ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire, comme chrétien, je suis accompagné. Je suis accompagné par Jésus, bon pasteur. C'est le psaume 22, hein, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et cet accompagnement, il le fait par la médiation de l'Église, qui me parle par son enseignement, son catéchisme, qui me parle aussi par la médiation, si je suis un enfant ou un adolescent, de mes parents éventuellement, dans leur éducation, des éducateurs que je peux rencontrer,
oui, par des catéchistes,
des confesseurs, des homélies, voyez. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en place ma vie chrétienne, à partir de cette conduite du bon pasteur qui passe par une multiplicité de médiations. Voilà. Et puis, ça c'est, on va dire, le secours général. Voilà. Et puis, c'est comme les autoroutes de la vie chrétienne. Et puis, il y a un moment où je sens que je suis attiré plus fortement et que je rentre dans un chemin plus personnel. Je sens que Dieu m'appelle par mon nom, qu'il m'attend. Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à reconnaître mon chemin. Et c'est pour ça que ça devient personnel.
Donc plutôt que de se dire, allez, c'est la rentrée, cette année, je vais m'inscrire au cours de sport, je vais chercher un accompagnateur spirituel, il faut vraiment s'interroger sur sa vie spirituelle et se dire, est-ce que je suis parvenu à ce moment où j'ai besoin d'une personne extérieure, d'un tiers, pour m'aider à avancer dans ma vie spirituelle parce que j'ai déjà tout mis en place.
Oui, c'est-à-dire que avant peut-être de penser à un accompagnement spirituel, je vais penser à mettre en place un temps de prière quotidien. Je vais penser à lire la parole de Dieu, à me former, à m'inscrire dans des groupes de lecture biblique, catéchétique, un groupe d'oraison. On a des groupes de progressants, de personnes qui approfondissent l'oraison, des groupes de prière. Donc, je suis pas tout seul comme chrétien, mais je peux recevoir un accompagnement sous d'autres modes que cet accompagnement individuel, qui, à mon avis, correspond à une certaine étape de la vie spirituelle.
Et puis, peut-être, puisque vous parlez d'étape, Père Henri, il y a peut-être aussi un accompagnement spirituel qui peut être ponctuel quand il y a des questions, notamment de discernement.
Tout à fait. Alors, parmi ces choses à mettre en place, je pense qu'il y a la confession régulière, ce qu'on appelle aussi la confession de dévotion, qui est une sorte d'accompagnement diffus, si vous voulez. Je peux me confesser tous les mois, par exemple, et ça va être vraiment non pas seulement le fait de me de demander le pardon de mes péchés, mais le fait de rechercher le progrès dans la vertu. Et par cette confession régulière, je vais voir se dessiner petit à petit des choses, et je pourrais avoir besoin ponctuellement de demander conseil, de discerner. Je peux aussi rencontrer ponctuellement un accompagnateur. Vous avez des gens, par exemple, qui font le point une fois par an avec le prêtre qui les ont mariés, ou qui, voyez, ou un prêtre qu'ils ont connu dans leur adolescence, avec qui ils ont gardé un lien, pour voir la courbe de ma vie chrétienne, comment ça se dessine, où est-ce que le Seigneur m'attire. Mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, les chemins de Dieu sont assez simples, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le devoir d'État, c'est une sanctification du quotidien. Et donc, j'ai pas de grandes choses à discerner. Les moments importants de discernement, je pense, sont pour les jeunes, qui discernent un état de vie. Mm-hmm. Là, je pense qu'ils ont besoin d'être aidés par des personnes à la fois très respectueuses, mais aussi peut-être plus expérimentées, qui leur évite la précipitation, qui leur évite certaines erreurs manifestes, sans jamais se substituer à leur liberté.
Eh oui, bien sûr.
Et puis, je pense, chez des personnes plus mûres, il y a ce moment qu'on pourrait appeler, je le dis avec précaution, d'entrer dans la vie mystique, c'est-à-dire ce moment où l'emprise de Dieu se fait plus forte, plus nette, et je suis un peu perdu, parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Et j'ai besoin d'être guidé.
Mmh. Il peut y avoir aussi des phénomènes surnaturels qui se manifestent. Et là, il faut vraiment être accompagné.
Voilà. Alors ça, c'est un principe général dans l'enseignement des spirituels, des saints du Carmel. C'est que dès qu'il y a des choses surnaturelles qui interviennent dans ma vie, je dois les remettre à un tiers, justement, qui discerne, qui me permet de ne pas me laisser prendre par l'illusion, par la tromperie.
Mmh. Vous, Elisabeth Dumont, vous êtes passée par ces étapes de mise en place de vie de prière, de confession régulière, et puis effectivement, il y a un moment où vous êtes dit, il faut que je passe à la vitesse supérieure, si je peux dire.
Oui, tout à fait. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Une vie de prière d'abord, plus de confession. Du coup, je suis allée voir le prêtre de ma paroisse pour lui demander un petit. Enfin, voilà, vraiment, je sentais ce désir de davantage. Et bon, j'ai pas trouvé la réponse auprès de lui, et donc j'ai continué à chercher jusqu'à. Grâce à une amie, en effet, être orientée vers un frère carme. Ce que je vois, ce qui me semble, c'est que, enfin, moi, dans ma vie, hein, c'était avant, je mettais toujours des pierres davantage sur l'édifice, je vais faire plus de prières, plus de ceci, plus de cela. Et puis, en fait, il y a un moment où je me dis, c'est pas ça la vie chrétienne. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est cet appel beaucoup plus profond de Dieu. C'est vraiment une conversion, c'est vraiment c'est mon être profond qui a besoin de se réorienter. Et là, je vois bien que je suis démunie, je peux être un peu aveugle sur moi-même, et c'est une soif de vérité sur soi qui monte et qui nécessite quelqu'un d'autre.
Alors, il faut quand même qu'on distingue l'accompagnement spirituel de trois autres formes d'accompagnement. Il y a le coaching, il y a le suivi psychologique, et vous avez parlé de la confession. J'aimerais bien quand même, si on revient sur cette confession, Père Henri, qu'on distingue bien les deux.
Mmh. Alors, clairement, la confession, c'est un sacrement. Et ce qu'on dit au confesseur, il est l'oreille de Dieu, hein. Et donc, on vient pour faire l'aveu de ses péchés, et c'est un élément important, c'est un aveu, hein. C'est pour ça certains ont gardé l'attitude traditionnelle de dire « je m'accuse », mais c'est vraiment « j'endosse la responsabilité des actes que j'ai posés, et je les reconnais comme mauvais ». Et le prêtre va me donner le pardon de Dieu, le pardon sacramentel, qui est une effusion de la miséricorde divine, qui est un acte du Christ ressuscité, qui vient guérir ma liberté des actes mauvais qu'elle a posés. Et donc il y a quelque chose, Dieu seul peut remettre les péchés. Dieu seul peut remettre les péchés. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est très contesté. Les pharisiens disent, c'est là un pouvoir divin. Voilà. Et ça peut être un argument apologétique important, hein, c'est-à-dire que je pense beaucoup de gens portent des profondes culpabilités parce que il est rare qu'une vie s'écoule sans que jamais le mal s'exprime dans le cœur d'un homme, hein. Et de penser que en Jésus, Dieu est venu nous apporter cette guérison-là du plus profond de nous-mêmes, des fautes commises, je pense que c'est un cadeau inouï, le plus grand qui puisse nous être fait. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est la confession. Alors, comme je le disais, cette confession, elle peut être donc pour les péchés graves, elle est nécessaire pour le pardon des péchés graves, mais dans l'histoire de l'Église, on a vu développer ce qu'on appelle la confession de dévotion, qui est une confession aussi des péchés véniels, et dans laquelle je travaille à ma conversion et au progrès dans la vertu. Et donc je vais mettre en place une confession régulière qui me permettra éventuellement de voir mes progrès, mes reculs, et puis je reçois dans ce pardon une grâce pour le combat spirituel, pour progresser. Et puis si j'ai le même confesseur régulier, il va mieux me connaître, il va mieux me conseiller, m'exhorter, il va m'inviter à mettre l'accent sur tel ou tel aspect, une personne scrupuleuse, il va chercher à la dilater, à lui donner confiance, etc. Voilà. Donc ça, premier point.
Premier point, alors je vous propose de marquer une pause déjà dans cette émission, et puis vous nous direz après quelles sont les différences avec le coaching et puis avec le suivi psychologique. Nous écoutons le concerto en do mineur numéro 1 de Jean-Sébastien Bach et nous nous retrouvons au Frère Henri et Elisabeth Demont juste après. Faut-il nécessairement avoir un accompagnateur spirituel pour être un bon chrétien? C'est la question que nous nous posons ce matin avec Elisabeth Dumont, laïque de l'ordre des Carmes Deschaux-Séculiers et Frère Henri, carme au couvent de Toulouse. Juste avant cette pause musicale, nous échangeions à propos de ce qu'est précisément l'accompagnement spirituel et nous nous demandions quelle était sa différence avec la confession. Et je vous propose, Père Henri, de nous dire aussi quelle est la différence entre l'accompagnement spirituel et un suivi psychologique.
Alors déjà, je pense que ça va être le niveau de le lieu sur lequel s'exerce cet accompagnement. Le psychologue travaille sur le niveau psychologique, c'est-à-dire naturel. L'accompagnateur spirituel vous aide dans votre relation à Dieu. Donc c'est cette fameuse distinction nature-grâce, hein, c'est-à-dire que la vie spirituelle, c'est vraiment la vie de l'Esprit-Saint, et donc je cherche comment l'Esprit-Saint m'anime et me conduit. Et puis la vie psychologique, c'est le registre de mes émotions, et donc le psychologue va m'aider sur un plan naturel, parce que je peux avoir des blocages, des blessures, des addictions, la dépression est une forme de... C'est-à-dire que les sciences humaines ont montré que notre psychisme avait ses lois propres et qu'on peut lui apporter du soulagement, on peut lui proposer des chemins de guérison. De la même manière que quand j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Eh bien, il y a des plis psychologiques, des maladies psychologiques pour lesquelles je vais avoir besoin d'avoir recours au psychologue, hein, et qui va avoir des outils qui lui sont propres pour m'aider dans des blocages relationnels, des difficultés de confiance en soi, des blessures d'enfance, etc. Et il serait dangereux de penser que la grâce va tout guérir. Hein. Souvent, j'ai une blessure et la grâce va justement m'apprendre à porter ma croix. Hein. Et donc, elle ne pourra pas me faire l'économie de ce travail psychologique qui pourra m'apporter peut-être un mieux-être, qui pourra peut-être ne pas m'apporter de solution, mais il faut apporter des réponses au niveau où elles sont attendues.
Mmh. Voilà. Donc avant de chercher un accompagnateur spirituel, pardon, la question à se poser, c'est est-ce que je n'ai pas d'abord besoin d'un suivi psychologique.
Voilà, ça pourra faire partie des questions. Parfois, l'accompagnateur spirituel pourra orienter vers un suivi psychologique. Ah oui, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il faut pas se dire voilà, j'ai des problèmes, je vais prendre un accompagnateur spirituel. Mmh. Non, il faut que mon intention soit à la recherche de Dieu, soit à la recherche d'une vie spirituelle fervente. Mmh. Voilà. Si mon intention est faussée, je vais être déçu par l'accompagnateur spirituel.
Mmh. Elisabeth Dumont, vous avez éprouvé vous avez compris entre guillemets cette différence et vous avez vraiment éprouvé ce désir profond de suivre Jésus et de chercher sa volonté dans l'accompagnement spirituel.
Oui, oui, oui. Alors vraiment, c'est ça, c'est ce désir profond qui est premier pour moi. C'est vraiment vraiment devenir de plus en plus l'enfant du Père, quoi, de dans cette vie d'union à Dieu. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, tout au long de l'accompagnement, il y a une connaissance de nous-mêmes qui est beaucoup plus vraie. Justement, on apprend à découvrir en nous ces différents niveaux, ce niveau psychologique. On apprend à reconnaître ce qui peut nous bloquer, parce que le psychologique, il nous bloque aussi dans notre relation à Dieu. Donc, c'est très précieux, je trouve, de grandir dans la connaissance de soi pour savoir qu'est-ce qui relève du surnaturel, qu'est-ce qui relève simplement d'une blessure psychologique, comme disait le Père Henri, soit je vais avoir besoin d'une aide psychologique, soit peut-être que ce sera en effet quelque chose avec lequel je mourrai, qui ne sera pas guéri, mais voilà, avec lequel je vais cheminer et tout ça. C'est ce qui est beau dans l'accompagnement, enfin moi qui m'aide beaucoup, c'est de reconnaître d'être de plus en plus en vérité sur soi-même, quoi.
Mmh, oui, apprendre à s'aimer et donc à aimer l'autre. Quelle différence entre l'accompagnement spirituel et le coaching?
Alors, je ne connais pas bien ce domaine, mais je pense que le coach, alors je pense au coach sportif ou au coaching tel qu'on voit se développer aujourd'hui, hein, il y a parfois une aide à la décision ou une aide pour une reconversion professionnelle, etc. C'est-à-dire que le coach, c'est celui qui va fortifier ma volonté, je pense. Il est comme quelqu'un qui m'encourage. Et puis, il est aussi quelqu'un qui a peut-être une meilleure connaissance, un certain capital d'expérience dont il me fait profiter.
Mmh. Il donne une méthode, peut-être.
Voilà, une méthode. Et puis, si vous voulez, c'est la conscience aussi. Tous ces tous ces métiers sont dans des domaines qui sont connexes, hein, qui se recouvrent. Hein. Mais le fond du fond, c'est que je vois que j'ai besoin d'un tiers pour grandir et que on est dans une société qui a énormément favorisé l'individualisme et qui, parallèlement à ça, multiplie les conseillers techniques et les instances de conseil, parce qu'on prend conscience que cet individualisme nous plonge dans une solitude ingérable. Mmh. Et je pense qu'autrefois, peut-être, ces choses se faisaient un petit peu naturellement. Hein. C'est-à-dire que cet encouragement pouvait avoir lieu dans le milieu familial, comme aussi parfois pouvait avoir lieu soit par des amitiés, soit aussi par le prêtre qui pouvait jouer ce rôle de voilà. Donc, le coach, il me dit ce besoin que j'ai de m'appuyer sur.
D'accord.
Et donc ça se passe toujours dans ce domaine naturel. Donc le psychologue, le coach travaille sur le domaine naturel, le confesseur, l'accompagnateur spirituel travaille sur le domaine spirituel, le domaine des chemins de la grâce, des chemins de Dieu dans ma vie.
Mmh. Vous nous avez dit, Elisabeth Dumont, que vous aviez cherché un accompagnateur spirituel d'abord auprès de votre curé de paroisse et puis que finalement ça ne vous avait pas correspondu. Qu'est-ce que vous diriez pour choisir un bon accompagnateur spirituel?
Alors, je ne sais pas si on le choisit vraiment. Enfin, moi, j'ai changé plusieurs fois. Et vraiment, toujours, j'ai d'abord demandé à l'Esprit-Saint qui me guide vers la bonne personne. Ça m'a amené à changer parce que ça ne correspondait pas forcément à ce que j'étais ou... Je ne sais pas comment...
Ouais, est-ce que ce dont vous aviez besoin aussi pour progresser dans la vie spirituelle, pour avancer?
Oui, et puis, ce n'est pas tout de suite qu'on s'en aperçoit. Il faut un petit peu de temps pour réaliser, d'abord pour que la confiance s'établisse, et puis un temps de chemin pour voir si finalement... On avance dans la vie spirituelle. Est-ce qu'on est bien compris par cette personne? Je me souviens d'un moment où justement j'étais débordée par tous les enfants, donc je m'étais dit je vais prendre quelqu'un qui habite pas loin. J'avais qu'un horaire, c'était celui du début d'après-midi pour pouvoir être là à la sortie de classe des enfants. Et cet accompagnateur, c'était l'heure de la sieste pour lui. Il s'endormait à chaque fois que je lui parle. J'ai tenu un certain temps, je me suis dit non, là ça va juste pas être possible. Enfin, donc je me dis on a cette liberté de voir aussi ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas.
Oui, ouais. C'est ça. Et selon l'étape de vie dans laquelle on est. Vous parlez de vos enfants à l'école et puis effectivement quand les enfants sont plus grands, il peut y avoir d'autres besoins et donc un autre rythme et donc forcément peut-être un autre accompagnateur spirituel qui peut prendre le relais.
Exactement. Alors, par rapport à ma vie, hein, il y a des critères très, très objectifs, en fait. C'est vrai qu'il faut qu'on puisse aller le voir régulièrement. Donc, il faut qu'on puisse avoir la possibilité éventuellement de faire des kilomètres ou pas. En fait, il y a des choses très, très concrètes qui aident dans ce choix, en fait, de la personne à qui on va demander cet accompagnement.
Mmh. On reviendra sur cet engagement hein, qu'on prend quand on se fait accompagner, mais peut-être juste avant, Père Henri, sur cet accompagnateur spirituel, Elisabeth Dumont disait finalement, il nous est donné.
Alors tout à fait, je suis sensible à cet aspect, hein, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre son désir d'un accompagnateur et puis le fait qu'elle en reçoit un comme un cadeau. Alors c'est François de Sales hein, qui dit qu'il faut le choisir entre mille. C'est-à-dire que il faut quand même une certaine affinité d'âme. Il faut se sentir compris. Il faut. Alors, il est clair que je peux avoir plusieurs accompagnateurs, pas en même temps, hein, attention, successivement. Et puis, je peux faire le constat que, au bout d'un certain nombre de rencontres, la confiance ne s'établit pas, le courant ne passe pas, je me sens pas compris. Etc. Donc, il y a un grand régime de liberté. Je peux tâtonner, et puis dans une vie chrétienne, on voit qu'on a en général un certain nombre d'accompagnateurs qui se succèdent au gré des déménagements, des changements,
des étapes de la vie.
Des étapes de la vie, puis je peux être aussi, en fonction de ma vie spirituelle, aidé par une personne pendant un certain nombre d'années, et puis je sens que à partir d'un certain moment, lui m'a apporté tout ce qu'il avait à me dire, il me redit toujours la même chose, et je sens que j'ai besoin d'entendre une autre musique, voilà. Donc, très important, le fait que l'accompagnateur est quand même un don de Dieu pour m'aider sur mon chemin, et que d'une certaine manière, je vais le demander dans la prière, et il me sera donné. Alors, il faut pas tomber dans des choses magiques, hein, mais il y a vraiment une correspondance entre mon désir et Dieu qui vient à mon secours à travers une personne concrète qu'il va mandater pour m'accompagner sur ce chemin.
Mmh. Oui, donc c'est pas qu'un choix unilatéral, c'est vraiment demander à Dieu de nous aider dans cette recherche. Elisabeth Dumont, à quoi s'engage un accompagné tout au long de l'accompagnement spirituel ?
Alors, ce qui me semble, enfin, il s'engage, je crois, à se laisser conduire, à se laisser bousculer, parce que finalement, c'est un accompagnement, c'est assez exigeant en soi. C'est-à-dire que si on commence l'accompagnement en étant passif, on peut pas, enfin, c'est pas le but, quoi. C'est-à-dire que ça va nous engager, nous, activement, à vraiment être dans l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit au moment de l'accompagnement. Je pense que au moment de l'accompagnement, on n'est pas là seulement pour écouter l'accompagnateur, on est là pour écouter ensemble l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue que va se révéler le troisième qui est vraiment là. Et si j'ai su écouter, ça va. Du coup, je m'engage concrètement dans ma vie à changer des choses, à rentrer dans, à poser des actes pour que ma vie soit plus conforme à ce que le Seigneur attend. Donc, c'est vraiment très, très actif. On n'est pas là juste passivement pour écouter ce qu'on va me dire et puis ça va me faire du chaud au cœur. C'est vraiment un engagement personnel,
Oui, un engagement à prendre sa vie en charge et à accepter de changer et de se mettre en mouvement. Père Henri, vous parliez de ce risque de la confiance.
Oui, de fait. Alors, à partir de ce que vient de dire Elisabeth, on voit que pour que l'accompagnement fonctionne, il faut que la personne ait une certaine maturité dans sa vie chrétienne et donc une capacité à l'écoute intérieure. Il faut qu'elle apporte quelque chose. Elle peut pas être juste une exécutante de ce que va lui demander l'accompagnateur. Et donc, je pense que cet engagement personnel envers Dieu est la condition première. Et puis, c'est vrai que, parce que ce sont des choses très intimes, il va falloir que se construise progressivement une confiance, parce que je vais remettre des choses qui regardent ma relation à Dieu. Et donc, j'ai besoin d'une confiance humaine dans cette personne, et aussi d'une confiance surnaturelle, au sens où, quand je vais à ma rencontre d'accompagnement, je prie, comme l'a dit très bien Elisabeth, je viens pour que l'Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Et parfois, il y a des choses que je n'ai pas spécialement envie de dire, mais je sens que l'Esprit Saint va me demander de les dire, parce que je dois faire cette ouverture de cœur pour me remettre entre les mains. Voilà. Donc, cette confiance, il faut pas se dire qu'elle est pas seulement contractuelle, si vous voulez. Il y a un engagement très clair à la confidentialité, hein, très très forte de la part de l'accompagnateur, et aussi un petit peu de la part de l'accompagné, qui doit pas publier partout ce qui peut se raconter dans son accompagnement. Mais d'un autre côté, il y a une confiance qui se tisse très progressivement, et qui est une confiance, je crois, dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire que on marche ensemble sur ce chemin et on sent que voilà, quand on dit quelque chose à l'accompagnateur, à travers lui, c'est à Dieu qu'on le remet.
Mmh. Voilà. Saint François de Sales disait à propos de cette confiance, traitez avec lui à cœur ouvert, en toute sincérité et fidélité, lui manifestant clairement votre bien et votre mal, sans feintise ni dissimulation, ayez en lui une extrême confiance mêlée d'une sacrée révérence.
Oui. Magnifique.
C'est bien résumé, hein.
Oui, oui, oui. Et c'est ce que disait bien Elisabeth, hein. Je pense qu'un des enjeux de l'accompagnement, c'est d'arriver à se dévoiler, à se dire en vérité. Parce que on est toujours tenté de, la petite Thérèse critique les sœurs qui veulent se faire admirer par l'accompagnateur. Voyez? Se faire passer pour
élève.
Sainte, etc. Alors que je pense qu'un des enjeux, c'est accepter de laisser regarder sa pauvreté.
Mmh. Voilà. Pour terminer, Elisabeth Dumont, j'aimerais bien qu'on parle de la liberté de l'accompagné et de l'accompagnateur vis-à-vis des conseils la liberté de l'accompagné vis-à-vis des conseils de son accompagnateur spirituel. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une motion, enfin de recevoir une motion de votre accompagnateur spirituel et puis qu'ils vous disent, je vous conseille, ou est-ce que vous pensez que vous pourriez faire ça et que là ça vous rebiffe en vous disant, mais non, en fait, c'est pas du tout ce que je souhaite vivre.
Ah oui, oui, oui. Alors, c'est pas ce que je souhaite vivre, parce que je pense que sur le fond, justement, le désir de Dieu, c'est vraiment celui qu'on partage. Par contre, dans les moyens concrets, moi, je me souviens d'une fois où j'avais été invitée à prendre davantage les textes de l'office des lectures, et vraiment concrètement dans ma vie. Avec l'emploi du temps que j'avais, je me suis dit, mais juste, c'est pas possible, ça va être trop, enfin, j'ai vraiment senti que c'était pas ça, j'ai dit, non, ça va juste pas être possible, à ce moment-là. Donc, je pense que il y a des fois où, enfin, moi, je peux réagir très fort en disant non. Et après, il y a des moments, en effet, où ça a besoin de faire son chemin en moi, et je peux dire, bah, écoutez, je vais réfléchir, etc. Mais je suis pas du tout dans, il m'a dit ça, donc je vais le faire tout de suite. Je pense que cette liberté est importante à garder. Mm-hmm. Ouais, même si, sur le fond, on est là vraiment pour écouter et parfois se soumettre, entre guillemets, à quelqu'un en qui on a confiance parce qu'il a plus d'expérience, etc.
Et se laisser aussi bousculer. Père Henri.
Mais tout à fait, je renchéris. C'est-à-dire que je pense d'une part qu'effectivement, la parole de l'accompagnateur, elle a un poids. Donc la personne l'accueille avec une certaine crédibilité, si vous voulez. Mais elle ne doit la faire sienne que si, en son fort intérieur, en sa conscience, elle se l'approprie comme venant de Dieu. Et comme dit Elisabeth, parfois ça prend du temps, parfois un conseil m'est donné et je vois que non, ça colle pas. Mmh. Et donc, il faut vraiment maintenir que cette liberté, elle est première. On raconte de Saint Jean-Paul II que la phrase qu'il répétait le plus souvent en accompagnement, c'était « Maintenant, c'est à vous de voir ». Et Thérèse d'Avila, après avoir rencontré différents accompagnateurs, elle en a rencontré plusieurs qui lui donnaient des conseils irréalisables pour elle, ce qui l'a jeté dans le découragement.
Ah oui.
Et puis elle en rencontre un et elle dit « Il me laissait il ne m'imposait aucune autre obligation que celle que je m'imposais par amour. » Donc c'est-à-dire que elle était mue par la grâce, et cet accompagnateur, il se contentait d'accueillir sa générosité et de la confirmer.
Oui, c'est ça. C'était une confirmation.
Et donc il y a jamais rien de forcé. Hein. Oui. Voilà. Donc l'accompagnateur peut risquer des conseils. Mais si vous voulez, c'est le sujet qui reste responsable de se l'approprier parce qu'il le regarde comme une parole de Dieu pour lui.
Mmh. Et effectivement, cette liberté est importante parce que ça peut prévenir tous les cas d'abus dont on parle depuis quelques années.
Exactement, exactement. On revient à ce que je disais au début, hein, il n'y a que Dieu qui soit plus grand qu'une âme. Il faut absolument... L'abus ou l'emprise, c'est le fait de quelqu'un qui prend la place de Dieu, qui essaie, parce que personne ne peut le faire, de prendre la place de Dieu, et donc qui se pose en conducteur de l'âme, voyez. Et là, il y a un abus très grave, parce que c'est vous savez, l'icône de l'accompagnateur, l'idéal de l'accompagnateur, c'est Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Mmh. C'est-à-dire, son rôle, c'est de s'effacer devant le Christ, et pas de prendre la place du Christ.
Mmh. Voilà. On restera sur ce modèle de Jean-Baptiste. Pour prolonger nos échanges, il existe aussi cette possibilité de suivre un cours en ligne à l'Institut Jean de la Croix. Je vous remercie en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission sur l'accompagnement spirituel et si c'est le bon chemin pour être un parfait, ou parfait peut-être pas, mais un bon chrétien, on va dire. Merci frère Henri. Je rappelle que vous êtes carme au couvent de Toulouse. Merci Elisabeth Dumont, laïque de l'ordre des carmes des Chaux Séculiers. Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur l'accompagnement spirituel, sa juste nécessité. Et c'était donc votre Vivante Église, émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci.
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 Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.